les chroniques Road Movies of Fic du professeur Rosmini.
Well, here we are on the road.
Yeah, that's where we are, all right.
Tous les dimanches à 11h30 sur le 888.
Survey some way free off for the war.
Et sur radiogrenouille.com.
L'expérience du ciné-spectateur est une expérience paradoxale puisque d'un côté, le spectateur est assis, immobile, dans un fauteuil et dans un lieu clos. Et par contre, devant ses yeux sont projetés des espaces ouverts, des espaces mobiles, par la magie de l'écran. Or, cette mobilité, la mobilité de l'image au cinéma, elle est l'essence même, la mobilité du road movie. Or, dans le road movie, il y a justement toujours une dialectique, là aussi, de l'ouvert et du fermé. Le voyage est souvent un mouvement pour échapper à des lieux clos, des lieux étouffants, anxiogènes, pour s'évader justement de ces lieux. Les exemples sont multiples, j'en citerai quelques-uns simplement dans cette chronique. Le premier par exemple, c'est un film de Nicolas Ray, très beau film, Les Amants de la Nuit, film de 1949. Et notamment au tout début du film, Ray va multiplier les espaces comme ça, étouffants, oppressants. Par exemple, le personnage principal, dont on apprend assez vite qu'il est évadé, est filmé à travers une grille sous une très grande affiche publicitaire. Et tout le film comme ça va multiplier les espaces clos, les espaces fermés. Et l'absence de perspective, l'absence de trouée dans l'espace, qui est caractéristique de ce film, va aussi symboliser l'absence d'avenir pour les personnages, puisque c'est un film qui relève plutôt de l'aporie, c'est le cas de dire.
I knew that's how I had to go.
You talk too much.
Please, mister, please.
Yeah.
Parfois, cette dialectique entre l'ouvert et le fermé, elle est l'objet d'un chant contre chant. C'est par exemple le cas du début de Bonnie and Clyde, Arthur Penn, en 1967, film dont j'ai déjà parlé dans une autre chronique. C'est aussi le cas d'un film italien, de Dino Rizzi, 1962. Il sort passe, traduit en français par Le Fanfaron. Et lors de la première rencontre des deux personnages principaux, de Bruno et de Roberto, eh bien Bruno il symbolise justement l'ouverture, l'ouverture vers l'extérieur, l'aventure, l'improvisation, l'absence d'inhibition, il est dehors. Et Roberto, lui, il est dedans, il est cadré par sa fenêtre, comme Bonnie d'ailleurs dans Bonnie and Clyde. Et Roberto, lui, il symbolise justement le lieu fermé, l'enfermement, l'ordre, il est étudiant en droit, et puis le refoulement du désir qui est lié à cet enfermement. Plus récemment, Ridley Scott en 1991 avec Thelma et Louise oppose aussi dans le film des espaces clos et étouffants comme l'appartement de Thelma, hein, sa cuisine notamment, un espace très réduit. Et puis la cuisine aussi où travaille Louise, puisque Louise elle travaille dans un snack. Et puis à l'inverse, il y oppose les très grands espaces de l'Ouest américain. Et dans Thelma et Louise, justement, cette tension entre l'ouvert et le fermé, elle est exagérée, peut-être même, on pourrait dire, caricaturée.
Okay, then listen. Let's not get caught. What are you talking about? Let's keep going. What do you mean?
Alors, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que donc le terme road movie, je l'ai déjà dit, a été créé en 1970 seulement, hein, donc la plupart des films dont je viens de parler là sont antérieurs au concept lui-même de road movie. Et le terme de road movie a été créé autour du rapprochement en fait entre deux films, Easy Rider de Dennis Hopper en 1969 et Five Easy Pieces de Raphaelson en 1970, cinq pièces faciles en français. Or, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux films, eh bien, il y a justement là aussi une dialectique entre l'ouvert et le fermé, et chacun des deux films va mettre en avant un lieu qui va être désigné justement comme le lieu de l'enfermement. Alors dans le film de Raphaelson, dont le personnage principal est interprété par Jack Nicholson, eh bien le lieu de l'enfermement c'est la maison bourgeoise qui va être l'objet d'une très très longue séquence. Et le personnage justement joué par Nicholson, qui est issu lui de la grande bourgeoisie, veut à tout prix y échapper. Hein. Tout le film est basé sur cette idée de comment échapper à son milieu bourgeois. Et le mouvement fait partie de ce personnage. La maison, à cet égard, donc apparaît comme un piège dont il a du mal à s'extirper. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce film a été considéré comme un des premiers road movies, alors qu'à vrai dire, il y a assez peu de séquences sur la route. Hein. Si on regarde le film dans son ensemble et qu'on chronomètre, par exemple, les séquences sur la route et les autres, eh bien, elles sont minoritaires. Mais justement, ce qui est important dans le film, c'est pas tant le nombre de séquences ou le nombre de minutes passées sur la route, mais c'est leur importance. Et notamment, je renvoie au film lui-même et à sa toute dernière séquence, tout dernier plan, qui se passe dans une station-service et dans lequel, justement, le personnage joué par Nicholson va faire un choix en apparence absurde et va faire le choix justement du mouvement pour lui-même, du mouvement qui ne va pas quelque part, mais du mouvement qui s'auto-alimente et qui s'auto-justifie lui-même et qui s'auto-justifie par la fuite devant toute forme d'enracinement et toute forme d'arrêt. Hein, finalement, voilà, c'est un personnage en mouvement perpétuel.
Everything in the car got the shit burned out of it. Everything. All I got is what I got on.
Dans le film, par contre, de Dennis Hopper, Easy Rider, le lieu de l'enfermement, c'est la prison. Hein, à peu près au milieu du film, il y a un passage par la case prison. Et c'est là d'ailleurs où Billy et Wyatt vont rencontrer l'avocat Hanson, joué également par Jack Nicholson. Et d'ailleurs, la présence de Nicholson dans les deux films a contribué au rapprochement de ces deux films. Et là aussi, la prison, à partir de Easy Rider, mais même avant lui, va être un lieu symbolique, hein, justement, de l'enfermement, bien évidemment. C'est déjà le cas, par exemple, dans Les Raisins de la Colère de Ford, hein, bien avant Easy Rider, puisque le personnage principal, interprété par Henry Fonda, bah, au début du film, il sort de prison, justement. Le film va commencer à sa sortie de prison. Je parlais tout à l'heure des Amants de la Nuit, là aussi, hein, le personnage principal vient de s'évader de prison. Dans Sailor et Lula de David Lynch, il y a plusieurs passages par la prison. Dans Seuls les Indomptés aussi, de David Miller, très très bon film, dont j'avais déjà parlé par ailleurs. Dans Sugarland Express de Steven Spielberg, idem. Hein, le film va commencer dans une prison dont il va falloir partir. Dans Un Monde Parfait de Clint Eastwood aussi, le récit commence par une évasion de prison, là encore. Hein. Et donc ce thème de l'évasion et de la cavale, il va revenir dans beaucoup de films. Et Clint Eastwood, d'ailleurs, bien avant Un Monde Parfait, une dizaine d'années avant, avait utilisé déjà ce motif de l'évasion de prison dans un film qui s'appelle Honky Tonk Man, hein, de 1982. Mais alors sur un mode plutôt comique, alors que dans Un Monde Parfait, c'est sur un mode plutôt tragique. Puisqu'à un moment, dans Honky Tonk Man, le personnage de Red Stovall, qui est interprété par Eastwood lui-même, est en prison justement, et son neveu va le libérer en arrachant les barreaux grâce à sa voiture. Hein. Il va attacher les barreaux à la voiture, un peu sur le modèle des westerns justement, mais dans les westerns c'était des chevaux. Et puis il va arracher les barreaux. Et donc ici, ben justement, la voiture qui arrache les barreaux de la prison, c'est un moment où la voiture atteint son apogée, hein, son apogée en tant que symbole justement de l'évasion et de capacité à échapper à des lieux clos.
Les chroniques road movies ophiques du professeur Rosemini.
Well, here we are on the road.
Yeah, that's where we are, all right.
Tous les dimanches à 11h30 sur 888.
Survey's only free all for the war.
Et sur radiogrenouille.com.